Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Il est 11h04 en ce dimanche 30 juillet. Vous êtes bien sûr RMC, les grandes gueules du sport dominical, en compagnie aujourd'hui de Stephen Brun. Profitez-en, il reste une heure de Stephen Brun dans les grandes gueules du sport. Il nous dira tout à l'heure où vous pourrez l'entendre, toujours sur RMC, rassurez-vous, évidemment, la saison prochaine. Ludovic Duchet de Marie Martineau, à 11h30, vous le savez, d'habitude, c'est votre instant vintage. Aujourd'hui, ce sera une rediff d'un épisode de C'était mieux avant, de l'immense et non moins âgé Christophe Cessieux. Retour sur Marie-Josée Pérec, qui est devenue la petite fiancée des Français entre 92 et 96, après les Jeux de Barcelone et ceux d'Atlanta, et ses exploits sur 400 mètres et sur 200 mètres. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes donc. En attendant, on parle argent dans les grandes gueules. On adore ça, on passe la seconde.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
3,5 milliards d'euros.
Oui, c'est le montant qui aurait été fixé pour la vente du club de foot de Chelsea en Grande-Bretagne.
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Verratti, Messi, Ekitike, la frappe de Mbappé.
Avec 6 millions d'euros brut par mois, sans les primes, l'attaquant du Paris Saint-Germain a vu son salaire quasiment tripler.
Ça, c'est une journée au boulot, ça!
Juste avec son salaire et la prime à la signature, Kylian Mbappé va toucher environ 60 millions nets.
Combien?
Avant tout, c'est un kiff. Je comprends pas, mais j'accepte.
Il faut que les revenus des grands patrons soient limités.
Jaylen Brown got paid 5 years, 304 million. Justin Herbert got paid 5 years, 262 million. Highest paid NBA contract in history, the highest paid NFL contract in history, all on the same day.
Le chiffre du jour, c'est
540 plus 290, 520,
ouais. Non?
Toute l'actu éco avec BFM Business.
Je suis à bloc, comme on a dit, fiscalisation, je ne peux plus m'arrêter le tunnel. Mais chaque année, c'est pareil.
Ah, vous avez reconnu la patte de Pierre Amiche, hein, la production de ce petite compile. On se régale, évidemment, vous l'aviez bien compris. NBA, NFL, football, golf, les rémunérations des sportifs professionnels ne cessent d'augmenter ces dernières années, mais plus encore ces derniers mois, alors que certains annoncent depuis longtemps un crack à venir de cette bulle financière qui entoure le sport de haut niveau. Cette inflation n'est plus simplement l'apanage des contrats des ligues de sport américains ou des clubs de football européens qu'on fait le développement, on en parlait hier, de la ligue saoudienne de football. Alors, sur la musique qui fout les jetons, cette question pour vous les grandes gueules, le sport professionnel est-il, oui ou non, devenu indécent? Marie Martineau.
Tu commences par moi. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Mais oui.
D'accord, Denis Charvet. Oui. Merci bien. Allez, oui pour Marie quand même. T'es encarté au Parti communiste. Tu vas pas nous dire non.
Force ouvrière, s'il te plaît.
Force ouvrière. On embrasse Nathalie Arthaud. Ludovic Duchesne.
Oh que oui.
Oui pour Ludovic Duchesne. Stephen Brun.
Écoute, moi, j'aurais tendance à dire non.
Non pour Stephen. Avant d'entendre Pierre Gattaz, me dit Pierre Amiche. Et puis surtout, voilà, grand fan de NBA, où on a l'habitude quand même de parler gros sous. Avant d'entendre vos arguments pour ce débat, on accueille Edgar Groslot de la rédaction RMC Sport. Salut Edgar.
Salut Simon,
salut Edgar.
Salut Edgar. Salut.
Edgar qui fait ses débuts ce week-end dans les grandes gueules du sport. Edgar qui a remporté le concours des jeunes talents RMC. On est ravis de t'offrir cette première. On profite, on le rappelle, de l'absence de Jean-Christophe Drouet qui n'aurait jamais accepté qu'un néophyte comme ça vienne faire des papiers dans l'émission. Edgar, ces derniers jours, on a eu un peu la tête qui tourne avec les annonces de contrats ou de propositions de contrats partout et dans tous les sports.
Oui, et les deux derniers exemples en date, on l'a évoqué, nous viennent des États-Unis. Dans la même semaine, record du plus gros contrat dans l'histoire de la NBA, record de la NFL aussi. En basket, c'est Jaylen Brown des Boston Celtics qui a signé pour 304 millions de dollars sur 5 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, Michael Jordan, dans toute sa carrière, a gagné environ 90 millions de dollars en salaire. Évidemment, l'inflation a son rôle à jouer là-dedans. Mais en 5 ans, Jaylen Brown va donc gagner plus de 3 fois plus que ce que la plus grande icône de l'histoire du basket a gagné en 15 saisons. Record battu en basket, record battu aussi en football américain. Donc, le quarterback des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, va toucher 262 millions de dollars en 5 ans. Ces deux records, ils risquent de ne pas tenir longtemps. À chaque année, les limites salariales augmentent. En NFL, c'est la troisième fois en moins de 4 mois que le record est battu. Et encore, ces contrats sont très très loin de certaines offres faites par les clubs saoudiens de football, par exemple. Selon nos informations, Kylian Mbappé a refusé un salaire fixe de 200 millions d'euros par an à Al Hilal. Avec des bonus et d'autres contrats commerciaux, il aurait pu toucher jusqu'à 700 millions d'euros par an. Rendez-vous compte, hein, ça fait 58 millions par mois, 1,9 million d'euros par jour, 80 000 euros par heure. S'il avait signé ce contrat, le temps d'écouter tout ce que je viens de dire dans les GG du sport, il aurait pu gagner plus de 1700 euros.
Ah, ça les aurait valu. Un SMIC. Bon, on n'est pas loin de ce que la direction des RMC a proposé à Stephen pour rester sur une autre case de la grille.
1700 euros, oui.
Oui, 1700 euros par mois, effectivement. Merci beaucoup, Edgar. Tu peux rester avec nous si tu souhaites apporter des précisions dans le débat qui va suivre. Je commence avec toi, Ludo, parce que t'as roulé ta bosse un petit peu dans le sport, on rappelle. Les grandes années de Canal, quand même.
C'est... Ah, t'en as pris de l'oseille à Canal, hein, Ludo.
T'as palpé un peu, Ludo.
Ah, hein, oh, je voulais pas le dire, Stephen.
J'attends l'argent de leur part.
D'accord, on les embrasse. Ils ont toujours ton numéro. Non, mais toi, tu m'as répondu un oui très décidé. T'es un peu écœuré par toutes ces sommes.
Oui. Alors, je vais pas faire de démagogie. J'ai rien contre l'argent et s'ils en gagnent beaucoup, tant mieux. Là, maintenant, on atteint des sommets. Donc, ouais, ça me gêne. Le contrat d'Mbappé sur 4 ans, prime conclue, c'est 630 millions d'euros. Donc, je trouve que là, ça ne veut.
Tu parles de celui du Paris Saint-Germain.
Ouais,
hein.
Sur 3 ans, pardon. C'est 630 millions d'euros. Moi, je trouve que ça veut plus rien dire. Voilà, on est dans des sommes tellement stratosphériques que ça n'a plus de sens aucun. Et ce qui me gêne aussi, c'est que, et Dieu sait si j'aime ces sports, c'est qu'il y a une telle différence avec d'autres sports, et Marie en parlera mieux que moi, que ça me pose souci quand certains, alors je vais pas citer, mais triathlètes, du biathlon, des pongistes, des gymnastes, touchent 3 francs 6 sous, et qu'on voit des contrats totalement délirants en boxe, en NBA, en golf, et évidemment en foot avec Messi, Ronaldo et Mbappé qui sont les mieux payés au monde. Donc je trouve que oui, il faut à un moment donné savoir s'arrêter. D'ailleurs, les droits du foot notamment baissent dans la plupart des pays. Je pense qu'on revient un peu à la raison. Alors pas sur les contrats des footeux. Ce qui se passe en Arabie Saoudite, ça fait rire,
oui,
tout le monde. On a eu un débat hier, mais c'est quelque part totalement ridicule. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à la raison avec des sommes moindres, et ne serait-ce que pour les sportifs qui, eux, qui font des sports extrêmement compliqués, qui touchent rien. Donc, par respect pour leur sport, il faut arrêter de donner des telles sommes.
Stephen, même si on parle souvent de bulles financières autour du sport de haut niveau, certains détracteurs espèrent qu'elle va craquer. C'est quand même une économie. S'il y a autant d'argent,
c'est que ça génère. J'allais dire que ça vient d'une économie qui fonctionne. On parle de la NBA. Alors, bien sûr, le comparatif avec Michael Jordan. Mais à l'époque, les droits TV n'étaient pas ce qu'ils ont.
Il est symbolique, mais effectivement.
Oui, il est symbolique. Mais aujourd'hui, les droits TV continuent d'augmenter parce que la NBA fait un carton, que toutes les franchises gagnent en valorisation. Donc le salarié cap augmente, et donc on peut donner des contrats supermax à un garçon comme Jaylen Brown. Alors ce qui est étrange, c'est que c'est pas le meilleur joueur de la ligue. Jaylen Brown, c'est un très très bon joueur, mais il est pas classé par les LeBron James, les Kevin Durant et les Steph Curry. Sauf qu'il arrivait en fin de contrat, et il y a un peu ce.
Ça a pas de sens, Stéphane. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. Tu donnes 100 millions à un mec, mais quel sens ça?
On est un peu dans le système du foot, c'est que Boston ne veut pas que Jaylen Brown soit free agent et qu'il parte pour rien, donc ils préfèrent le re-signer 5 ans, et si jamais ils doivent le transférer, au moins ils pourront avoir une contrepartie et des échanges de joueurs. Donc il y a aussi un système tactique. Moi, en fait, cette économie, pourquoi elle me dérange pas? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de mettre ces sommes-là. L'Arabie Saoudite, ça repose sur aucune économie. C'est l'économie d'un pays, du pétrole, et il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce que je vais pouvoir générer comme argent, en fait. Eux, ils dépensent.
Ouais,
et après, on voit la NBA. La NBA, c'est différent. La Formule 1, c'est pareil. Mais si on était, moi, les pilotes, je les aime bien. Ils me font rigoler, les pilotes de Formule 1, en disant, attention, il faut protéger les circuits historiques et tout ça. Spa-Francorchamps, le Grand Prix de France, Monza, c'est important. Mais si on garde que les circuits historiques, je peux dire que les Verstappen et compagnie, c'est pas le même mosaïque qui vont se mettre sur la poche, dans la poche. Pourquoi on va en Arabie Saoudite?
Je suis pas sûr que ce soit les pilotes qui fassent le mieux, qui fassent la pirouette.
Revenons en arrière, en disant ok, on reste que sur les circuits historiques. Mais par contre, vous allez gagner de deux fois moins d'argent. On va voir ce qu'ils vont dire, les Lewis Hamilton et les Verstappen et compagnie. À un moment donné, il y a une économie. La F1, ils ont compris que ces pays-là, ils avaient de l'oseille. Aujourd'hui, le contrat signé par l'Arabie Saoudite, c'est, je crois, 50 ou 60 millions pour l'organisation d'un Grand Prix. Mais il y a des gens qui sont capables de les mettre. Alors prenons-les.
Si vous me permettez, je vais.
Alors, Marie, tu étais un peu entre les deux. Stéphane ou Ludo, t'as convaincu ou pas?
Non, ni l'un ni l'autre.
On s'en va.
Est-ce que 25 000 euros le mètre carré dans le 16e, c'est indécent?
Et ben voilà, c'est exactement là où je veux en venir. Ce qu'il y a, c'est que l'argent, ces contrats, tout ça ne prouve absolument plus le talent ou les qualités sportives des uns des autres, mais simplement, une partie, la notoriété sur les réseaux, ta capacité à engendrer de l'histoire et à générer du clic, et l'économie de marché du sport, qui n'est rien d'autre qu'un pendant de l'économie de marché. Tout seul du dérèglement capitaliste dans lequel on vit. Donc on arrive à une espèce de bipolarisation du sport. On a des smicards d'un côté dont tu parlais Ludo tout à l'heure, des multimilliardaires en dollars ou en pétrodollars de l'autre côté, et ce n'est ni plus ni moins qu'une jolie photo du monde dans lequel on vit. Le sport ne fait pas exception.
Sauf que c'est des sportifs qui se respectent aussi et que ils font du sport également, et que je vois pas pourquoi quelqu'un qui fait du biathlon ou du ping-pong
parce que ça génère pas la même économie, c'est triste mais c'est la réalité.
Non mais c'est tellement ridicule que l'argent qu'il aurait donné, ils pourraient même pas le dépenser s'ils voulaient, tellement il y en a.
Ils assurent pas le prendre
45 générations. Non mais les responsabilités sont évidemment multiples, et surtout à ceux qui les donnent. Je trouve que ça n'a pas de sens, et ça, le débat, quel sens il y a quand tu donnes 630 millions à un joueur de foot?
Mais quel sens ça, l'ultralibéralisme aujourd'hui, Ludo? Enfin, dans ce cas là on va ouvrir le débat.
Si l'Arabie Saoudite te file 50 fois plus pour faire les grandes gueules du sport en Arabie Saoudite, tu vas pas?
J'aurais un problème avec la langue déjà, mais non, mais je sais pas. Mais je dis pas que je le prendrais pas. J'ai pas de problème. Alors, attends, moi je suis pas au Parti communiste, donc j'ai aucun problème avec l'argent. Je dis qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est que qu'ils soient bien payés, ils le sont déjà. En Angleterre, quand on voit N'Golo Kanté qui fait plus 15, plus 20, alors qu'il touchait déjà 400 000 euros par semaine, je pose la question.
T'as jamais assez d'oseille, Ludo, même quand on a
ben c'est ça. Non mais cette phrase là pour moi elle est ridicule. Évidemment qu'ils en ont assez.
Mais c'est un constat,
Évidemment qu'ils en ont assez, mais ils en veulent plus. Voilà, ça, t'as raison. Ils en veulent toujours plus. Mais
quand t'as un jet privé de 20 places, et ben si tu peux en avoir un 40 places, et ben t'en fais péter un de 40 places.
C'est quel intérêt alors?
Mais quel intérêt? C'est leur trait de vie à eux. Non, on n'est pas dans ces sphères-là. On sait pas. Moi, si j'ai un SUV, si je peux avoir 50 chevaux de plus, si j'ai les moyens, je m'en fais péter un. Eux, c'est à des strates différents. Voilà. Quand t'as beaucoup d'argent, t'en veux toujours plus.
Tu peux te permettre de tout acheter. Quand t'as autant d'argent, mais tu peux pas le dépenser en fait, parce qu'ils en ont tellement que tu peux même pas passer ton temps à le dépenser, parce que ça reste des sportifs.
Alors,
de haut niveau.
Par exemple, Jalen Brown a dit je veux construire une sorte de Wall Street pour la communauté noire aux États-Unis.
Les Brown James, ça crée des écoles et compagnie. Leur argent, c'est vrai. Non, mais ça là-dessus, c'est vrai. C'est deux choses différentes. Les footeux aussi. Cristiano Ronaldo, voilà, pareil. Il aide des enfants malades. Mbappé a une association. Ils oublient jamais justement d'utiliser leur popularité à des fins qui sont nobles, et on dit pas assez sur les footeux notamment. Mais là on parle de sommes, moi je reviens au débat, pardon hein, mais on parle de sommes qui sont folles.
C'est vrai que le milliard d'euros que l'IAL était prêt à envoyer sur le transfert plus le salaire, 1 milliard.
c'est vrai que ça fait
marrer, effectivement, ça n'a plus aucun sens. Tu le rappelais, en Arabie Saoudite il y a pas de retour sur investissement. En NBA il y a effectivement une inflation, il y a un plafond salarial qui a augmenté et qui est lié,
c'est là pour le coup Marie, qui est lié au... Mais c'est du soft power, mais évidemment c'est de s'acheter une image. C'est de pendant ce temps-là on parle pas des droits de l'homme, on parle pas des droits de la femme. Pendant ce temps-là on fait fi de tout le reste.
C'est pas un retour financier.
Non, c'est très mal.
NBA, ils génèrent de l'argent.
Et ils savent aussi que le puits de pétrole n'est pas sans fond tant que ça, et que si un jour ils ont fini par réussir à créer un championnat qui fonctionne bien, à acheter des équipes qui marchent bien, à avoir investi dans des bâtiments qui valent de l'argent, ils auront toujours de quoi se retourner pour continuer à générer. Mais moi, j'ai bien aimé ce qu'Edgar a fait. C'est la mise en abîme, c'est la division de la division de la division pour nous donner un peu de concret. Parce que finalement, tu sais, tu dis, ah, le milliard,
oui,
je me rends même pas compte.
Oui.
En vrai, je te jure, quoi, c'est quoi un milliard?
Enfin, c'est toujours très parlant, effectivement, pour le grand public. Et il a pas remporté le concours des jeunes talents RMC pour rien, le jeune.
Edgar, bien joué.
Après, suivant les époques, c'est vrai que c'est disproportionné. Je vais vous citer une phrase parce que je l'adore et c'était.
Qui a dit ça?
C'était une légende, Georges Best, un grand philosophe.
Ah, le meilleur.
Qui disait, j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé.
Bien sûr, légendaire.
C'était magique, Georges Best. Il a vécu comme ça et c'était. Mais déjà à l'époque, il gagnait beaucoup d'argent.
C'est sûr, on peut dire ça.
Mais par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On continue de franchir.
Mais je me demande combien de temps ça va durer tout ça. Il y a bien à un moment donné, ça va péter. Enfin, je sais pas, quoi. Quand je vois la première ligue, les droits TV aujourd'hui, les transferts monstrueux, le moindre club de Pimpin qui est 14e ou 15e, qui peut envoyer des 30, des 45 millions sur un mec qui a mis 6 buts dans un championnat correct. Alors, ça nous nourrit, nous aussi, les clubs français, les clubs de Ligue 1, parce qu'on est vendeurs et ça nous permet de faire vivre l'économie du foot français. Mais quand est-ce que ça va?
C'est pour ça qu'on parle de bulles et que d'aucuns prédisent un crack inévitable un jour. Moi, ça fait.
Noir.
Mais ça fait, bien sûr, comme à Wall Street en 1929. Mais ça fait partie des prévisions des Nostradamus et des gens. Moi, je sais que dans mon entourage, pour ne pas le citer, mon papa, il a arrêté de suivre le football professionnel parce qu'il est écœuré par les sommes dont il entend parler. Effectivement,
ouais, il
trouve ça absolument indécent. Mais ce crack que d'aucuns annoncent depuis 20 ans, il n'arrive pas parce qu'encore une fois, les droits télé augmentent. On y trouve toujours son compte.
Oui,
et il y a un appétit du public.
Il suffit d'un événement perturbateur, un grain de sable, quelque chose, un truc, une phrase, un truc qui va être dit à un moment ou quelque chose qui va être fait à un moment de sport où il y a du monde devant la télé. Et là, ça va engendrer quelque chose. Et comme tout est lié, c'est effectivement, ça risque de perturber un petit peu la sphère de l'économie sportive.
Pour l'anecdote, cette semaine, on a appris le décès de Trevor Francis, un ancien joueur de football qui avait été le premier joueur de l'histoire à avoir été transféré pour 1 million de livres. Bon, et c'était pas au siècle dernier. Hein. Il est, je vérifie pendant que je vous parle. Il a joué dans les années 80.
Et pour parler d'argent, pour revenir à des choses qui sont plus sensées.
T'es avec caractère, toi.
Avec Simon. Avec Simon, on s'est régalé sur le Tour de France et il y avait un coureur qui s'appelle Peyo Bilbao, qui a d'ailleurs vraiment bien marché.
Deuxième de la Classique à Saint-Sébastien hier.
Absolument,
derrière
craqué
sur Evenepoel.
Ah là là. Et qui lui remettait 1 euro. Chaque coureur qui terminait derrière lui sur les étapes de montagne, ça concernait, c'était pour la déforestation. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors on va dire que c'est utopique ou que ça n'a pas de sens, mais il y a des gens et notamment dans le vélo où on n'a pas de telles sommes. C'est là on touche le ridicule. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut redescendre et revenir à plus de raisons.
Stephen rappelait qu'il y a quand même beaucoup de redistribution de la part des joueurs
vrai,
en NBA, notamment
vrai.
Pour les communautés afro-américaines. Mais c'est un argument qu'on entend très souvent. Pourquoi il n'y a pas plus de... Alors, on ne sait pas tout. On sait qu'Ilian Mbappé, par exemple, il est très, très actif dans les fondations.
Il y a des gens qui font
et on n'est pas besoin de faire sa pub pour ça. Mais on entend beaucoup de gens dire, quitte à prendre autant de pognon, pourquoi il ne redistribue pas plus aux communautés. Stephen, tu voulais ajouter quelque chose?
Sur le vélo, tu parlais du vélo. Il y a des coureurs cyclistes qui ont des contrats fantastiques. Hein. Chris Froome qui a même pas fait le Tour de France. Il prend des millions aujourd'hui. Les plus grands cyclistes, ça a augmenté.
Ça a l'air avec les footballeurs.
Parce que c'est des athlètes ou c'est des sportifs, ils devraient redistribuer. Ils doivent avoir une conscience. Non, non, non. Ils doivent faire des choses bien. Enfin, à la limite, est-ce qu'on en demande autant aux gens qui spéculent sur le marché et tout? Enfin, je veux dire, c'est bien les seuls à qui on demande toujours. Eux et les artistes, tu sais. Il faudrait tout ce qui soit tourné vers leur prochain.
Alors que les sportifs, effectivement, ils disputent des rencontres. Ce sont des athlètes.
Mais limite, c'est eux qui le font.
À la bourse.
On ne s'offusque pas que les autres ne le fassent pas, quand même.
D'accord. S'ils le font, c'est bien. S'ils le font pas, moi, je ne vais pas taper sur quelqu'un.
Ils veulent.
Qui n'a pas envie de reverser l'argent. Il faut une chaîne.
Notamment les sportifs qui, effectivement, ne sont pas allés braquer les propriétaires des clubs. Ils prennent l'argent qu'on leur propose, effectivement, en échange de leur performance. Voilà, en tout cas, ça fera toujours débat. Merci Edgar Grolot pour ce magnifique
coup qu'il a gagné quand même.
Il l'a gagné, le Grolot, évidemment, c'était obligatoire. C'est pas la première fois qu'on se la fait.
C'est pas la dernière qu'on lui fait.
Ouais. À l'école aussi, ça devait y aller, les profs, tout ça. Oui, bah, voilà.
J'aime pas toujours autant la blague.
On joue toujours avec mon nom.
Ludovic Duchesne, voilà.
Alors, quand on dit Edgar, Marie, elle pense à Edgar Gros Piron.
Exactement.
Edgar Gros, ils avaient Gros Piron, on a Gros Lot. Voilà, effectivement. À très bientôt sur RMC. Merci beaucoup, Edgar, d'être passé dans les grandes gueules du sport. Vous ne bougez pas, on va attaquer la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport dominicales dans un instant. Christophe Cessieux sera allé un petit peu avec nous, hein, jamais vraiment absent, le taulier de l'émission, une rediff d'un des meilleurs épisodes de C'était mieux avant. Marie Martineau, Stephen Brun, Ludovic Duchesne. Et vous, si vous l'appelez le standard, alors vous appelez pour parler à Stephen aujourd'hui. C'est Stephen Brun et vous, la rubrique un petit peu spéciale pour la dernière de notre grande gueule favorite dans l'émission. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Simon Dutin.
Dimanche 30 juillet, vous êtes bien sur RMC, les grandes gueules du sport dominical. Dernière ligne droite, en compagnie aujourd'hui de Ludovic Duchesne, Marie Martineau et Stephen Brun pour sa dernière à 11h45. On rendra un petit hommage à Stephen, justement, qui quitte les grandes gueules du sport la saison prochaine. On cause un vilain différent salarial avec la direction. On le déplore, mais le talent, ça se paye. On en parlait à l'instant dans le débat. On profitera des derniers instants du GOAT des GG. Ce sera avant les paris RMC, midi 13h, en compagnie de Christophe Payet et Anthony Reich. Ça, c'est pour après, mais pour l'instant, c'était mieux avant.
Les GG.
Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu. Dwis en tête. Dwis, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Ah, cette petite odeur de naphtaline, nos cessieux, nos parties, comme on dit chez nous. Christophe est en vacances, mais ses histoires sont éternelles, un peu comme lui finalement. Chaque dimanche à 7h06, c'est le moment de se replonger avec lui dans un moment qui a fait l'histoire du sport. Aujourd'hui, à 362 jours du début des Jeux de Paris 2024, on a choisi de vous proposer la rediffusion de l'épisode consacré à la reine Marie-Josée Pérec, devenue Marie-Jo pour tous les Français après ses exploits sur 200 et 400 mètres aux Jeux de Barcelone, puis d'Atlanta en 1996.
Septembre 2000, en ce début de printemps austral, le soleil brille sur le Harbour Bridge de Sydney pour la deuxième fois de son histoire. L'Australie, un pays dont la véritable religion et le sport s'apprêtent à accueillir les champions des cinq continents. De Bondi Beach à Manly, en passant par le village olympique, les athlètes se préparent dans une ambiance, disons, débridée. En témoigne le stock de 70 000 préservatifs distribués aux champions écoulés en moins d'une semaine. Des jeux festifs donc et des images marquantes comme celle d'Eric Moussambani, ce nageur équato-guinéen qui manque de se noyer dans la piscine olympique et qui devient pour l'occasion une véritable anti-star. Mais l'étoile australe, celle que tout le pays attend, se nomme Cathy Freeman. Le 15 septembre au soir, dans un stade olympique bouillant et tout de blanc vêtu, c'est elle qui a l'honneur d'allumer la vasque olympique. Freeman, dont les origines aborigènes constituent un symbole pour cette Australie qui veut se racheter d'un passé pas vraiment glorieux. 4 ans plus tôt, à Atlanta, l'Australienne a dû se contenter de la médaille d'argent sur le tour de piste, dont la reine se nomme alors Marie-Jo Pérec.
Attention à la ligne, Marie-Jo, ça se passe bien. La dernière ligne droite, Marie-Jo, c'est Pérec, va déboucher en tête avec Cathy Freeman derrière. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, Marie-Jo. Cathy Freeman n'est pas encore battue. Elle se bat. Marie-Jo, c'est Pérec, se détache. Marie-Jo, c'est Pérec, rentre dans la légende. Championne olympique, 48-26. Nouveau record olympique, nouveau record de France.
Voilà, en 4 ans, les choses ont bien changé. Pourtant, Freeman est devenue championne du monde, pendant que Marie-Jo, elle, a mis à profit sa notoriété pour devenir une icône de la pub, ce qui lui vaut d'ailleurs quelques petites railleries de la part des guignols.
Marie-Jo...
On voit bien le rouleau.
Donc, Marie-Jo, après 2 ans sans courir, vous avez décidé de vous installer en Allemagne, à Rostock. Pourquoi?
Et c'est clair, c'est mon retour. Je veux faire les Jeux de Sydney. C'est clair, ça c'est clair.
Et c'est un défi personnel.
Oui, c'est clair. J'ai un truc à me prouver à moi-même. C'est clair.
Et à la France.
Et à la France, c'est clair.
Et à vos sponsors aussi.
C'est clair que j'ai pas envie de décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Reebok, Nike, LS, Adidas, Ménène après radage, Benetton, Canard WC, William Sorin, Bégon Vert, Babybel, Amora, Dior, les Baléos Cédar, la Morricaine, Nostre École de Conquilé, Culture, McDonald's, Pampers, Laboratoire Filder, La Redoute, Yves Rocher et Préparation H.
Marie-Jo, championne d'exception, mais caractère difficile, ombrageux. Ses rapports avec la presse sont détestables, sans parler de ceux qu'elle entretient avec la Fédération française d'athlétisme. Du coup, depuis des années, eh bien, elle s'entraîne à part avec des entraîneurs de renom, dont l'Allemand Wolfgang Mayer, qu'elle a rejoint à Rostock, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, pour une préparation, disons, à l'ancienne.
Je découvre encore autre chose. C'est pour ça que je suis là. Il fait peut-être zéro degré ici. C'est pas Los Angeles. Mais je suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là pour m'entraîner. Et donc, c'est vrai qu'autour, il y a rien qui m'attire à l'extérieur. Voilà.
C'est vrai qu'il vous fait répéter une phrase avant chaque séance d'entraînement.
Ben, c'est vrai, oui.
Quelle est cette phrase?
Enfin, moi, je parle pas allemand, mais bon, c'est vrai que la première phrase que j'ai apprise, je serai sur le podium, voilà.
Le podium peut-être, mais la médaille d'or certainement pas. Celle-là, les Australiens la réservent à leur championne et s'applique dès son entrée sur le territoire à saper le moral de la Guadeloupéenne. Traquée de toutes parts par les caméras, Marie-Jo se voit même refuser la location d'une maison parce qu'elle est l'adversaire de Freeman et donc la femme à abattre. Traitement de choc qui finit de déstabiliser une Pérec déjà fébrile. Bunkerisée dans son hôtel, la championne se sent traquée. Elle ne sort plus de sa chambre jusqu'au jour où...
Le matin, je me suis réveillée. Il y a des gens qui m'ont demandé si je voulais le service de l'hôtel. J'ai donc dit que je n'en voulais pas. Et évidemment, on m'a dit que j'avais un paquet. Donc j'ai ouvert la porte et ben, y a quelqu'un qui a forcé la porte et qui voulait rentrer.
C'est un homme.
Oui. Et j'ai repoussé la porte et je suis... Je sais pas, je me suis demandé qu'est-ce que je vivais, jusqu'où ça irait. Est-ce que ça vaut le coup de faire du sport dans des conditions pareilles?
C'en est trop pour Marie-Jo qui, sans prévenir, décide alors de quitter le pays avec son compagnon, l'Américain Antoine Maybank. Les médias australiens ne lâchent pas leur proie pour autant et suivent le couple jusqu'à l'escale de Singapour où la situation monte encore d'un cran.
Cette fois, Marie-Josée Pérec ne se cache plus. La championne, toujours traquée par les caméras, est revenue dans l'aéroport de Singapour pour prendre un avion d'Air France. Ce matin, son compagnon n'avait pas du tout apprécié qu'un journaliste australien les surprenne dans leur fugue.
Écoute-moi, si tu t'approches encore, je te frappe, t'as compris? Donne-moi ces putains de cassettes.
Il décasse sa montre, le caméraman se réfugie dans un magasin.
Je fais juste mon job. Après plusieurs heures de garde à vue, Marie-Jo et son compagnon sont relâchés. Ils rentrent en France où ils vont se terrer pendant des semaines. Trois jours plus tard, du fond de sa déprime et de sa planque, Marie-Jo est bien loin de Sydney où Cathy Freeman connaît, elle, son jour de gloire.
C'est parti avec un tour de folie ici en Australie. Un public extrêmement nombreux, il doit y avoir presque 110 000 personnes dans le stade, il est quasiment plein.
Elle est partie vite, Cathy Freeman, elle est toute seule devant, elle essaie d'asphyxier tout le monde.
Et Cathy Freeman qui accélère, Cathy Freeman qui va être championne olympique, si elle ne craque pas, elle ne craque pas Cathy Freeman, elle va la porter devant Lauren Graham et Catherine Mayhout en est présente. 49 secondes, 13 centièmes pour Cathy Freeman qui donne l'or à l'Australie. Tout un peuple attendait cela. Cela fait maintenant des mois et des mois que l'on parle de cette finale ici à Sydney. C'est énorme.
Voilà, devant 110 000 personnes, l'Australienne remporte le titre olympique. Quant à la Française, eh bien, on ne saura jamais si ce soir-là, elle aurait pu contrarier le destin de Cathy et devenir championne olympique sur la même distance en trois jeux consécutifs. Un crève-cœur dont Marie-Jo ne se remettra jamais vraiment. Trois ans plus tard, elle tentera bien de se qualifier pour les Mondiaux de Paris, mais blessée devra renoncer avant de prendre sa retraite. Bien avant, Simon Biles, dont on a parlé tout à l'heure, ou Naomi Osaka, une championne a craqué ce jour-là à Sydney.
Des grandes gueules du sport, c'était mieux avant, sur Marie-Josée Pérec, les immenses chroniques de Christophe Tessieux. On se régale chaque dimanche, on a hâte de le retrouver à la rentrée, Christophe qui prend un repos bien mérité après nous avoir régalé durant le Tour de France 2023. Les amis,
Marie-Josée Pérec, un peu plus qu'une championne, hein, une icône du sport français, grandeur et décadence d'une championne, on vient de le réentendre. On parle un petit peu de Marie-Josée Pérec, allez, on va pas faire comme si on la connaissait, qu'on était tous copains. Pour allumer la flamme olympique, qu'est-ce qu'on en dit, les GG? Ce serait une bonne idée, une mauvaise idée? Aucune idée sur la question, Ludo?
Non, bien, l'une des plus grandes championnes du sport français, donc... Moi, je valide. Il y a le choix, mais c'est vrai que non, Pérec, je sais pas. Elle représente quelque chose de fort à une époque où je pense qu'on gagnait pas beaucoup. Et en athlétisme, quand on fait le total, on n'a pas gagné beaucoup. Donc,
j'allais dire, bon.
Donc, non, elle représente quelque chose de très très fort. Après, tous les dérapages que nous a raconté avec brio Christophe Cessieux, voilà, ont eu lieu et elle s'est complètement perdue. Et
justement, ça l'a rendu un petit peu humaine. Aussi, ça l'a rapproché un petit peu du commun des mortels. Après, tu fais bien de rappeler que, en plus, c'est l'athlétisme qui reste la discipline iconique des Jeux Olympiques.
Des Jeux Olympiques, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et puis, Marie-Josée Pérec a toujours été, pas mystérieuse, mais assez discrète malgré tout. Et l'avoir allumé, dernière relayeuse, et avoir allumé cette vasque, ça permettrait aussi aux jeunes de redécouvrir qui est aussi Marie-Josée Pérec, ce qu'elle a fait pour le sport français, pour l'athlétisme français, de double championne olympique. C'est toujours bien de remettre des petits rappels comme ça à la nouvelle génération qui ont tendance à zapper ce qui a pu être fait avant. Donc oui, très bonne idée. Maintenant, avec toutes les surprises que nous réserve Paris 2024 avec sa cérémonie d'ouverture, on n'est pas à l'abri qu'il y ait, je sais pas, deux personnes qui allument la dernière, je sais pas.
Il pensait à Tony Estanguet pour allumer la flamme.
Il s'est proposé, je crois.
Son histoire s'est pas bien terminée avec les Jeux Olympiques et c'est une belle façon de boucler la boucle et finalement de lui rendre hommage et qu'elle puisse avoir un rôle tout particulier comme celui-ci dans le milieu olympique et dans l'Olympisme. Donc plutôt cool. Et puis Marie-Jo Pérec, c'est la France, mais c'est aussi la France des dom-toms. C'est une histoire. Christophe l'a pas raconté parce qu'il avait ciblé sur plutôt la fin de sa carrière, mais elle nous l'a raconté de vive voix une fois pendant les Étoiles du Sport. C'est le déracinement et c'est une histoire qui est commune à beaucoup de gens, beaucoup de Français qui viennent des dom-toms et qui ont dû se faire une nouvelle vie en métropole et tout. C'est une vraie histoire de vie. Elle mériterait d'être racontée mieux que juste à quelques athlètes qui ont eu ce privilège-là ce jour-là.
Puis quelle allure, quelle élégance, on se souvient quand même sur la piste, la foulée.
On a vibré, on a entendu Patrick Montel. Franchement,
associé pour l'éternité à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne.
On se rappelle presque ce qu'on faisait à ce moment-là. C'est vrai, ouais. C'est des tels moments de sport. Elle avait une foulée, elle avait une vista sur la piste qui était telle que c'est vrai qu'avec en plus la voix de Patrick Montel derrière, ouais, c'était des grands moments. On avait vraiment vibré totalement sur ses courses.
La grande histoire de l'athlétisme, effectivement. Et tu faisais bien de rappeler qu'à cette époque, on s'est dit peut-être qu'on va enfin gagner plus souvent en athlétisme, et force est de constater que sur le sprint et le demi-fond, on n'a pas réussi à enclencher, ce qui prouve qu'elle est une des plus grandes athlètes de l'histoire. Et
il y a bien les îles, Marie, elle a raison. C'est pas anodin non plus.
Effectivement, une des grandes championnes. Bon, voilà, peut-être. Je sais pas quand est-ce qu'on saura qui. Le suspense est gardé jusque. On découvre comme tout le monde à la télé qui est le dernier qui allume la. C'est ça. On l'apprend à la dernière seconde, non? C'est le suspense jusqu'au moment où on allume la flamme.
Les spectateurs, les téléspectateurs, oui, la personne à la dernière seconde. Après l'athlète concerné, j'ose espérer qu'il ne fait pas la tâche comme ça, pas surprise.
Oui, c'est ça. Bah, des fois qu'elle soit pas à Paris ce jour-là, oui, ce serait un petit peu dommage. Évidemment, toutes les chroniques de Christophe Cessieux, c'était mieux avant, sur la grande histoire du sport, pas seulement français, mais mondial, à retrouver en podcast sur l'application RMC, et Christophe Cessieux à retrouver en chair et en os, en studio évidemment, à la rentrée, c'était mieux avant. Et puis pour ça gouaille en débat, même si bon, il est pas toujours excellent en débat.
Souvent ronchon, c'est
quand Jean-Christophe lui donne pas assez souvent.
Exactement.
La parole,
il y a la chaise à rouler, il se retourne derrière, ça s'attaque et il arrête de parler.
Ah là, c'est Cessieux qui quitte le micro et qui râle. On l'adore, on l'embrasse, on a hâte de le retrouver. 11h41 dans les grandes gueules du sport. Dernière ligne droite dans un instant. Pas de GG et vous, mais un Stephen Brun et vous. Vous pouvez appeler au standard, partager vos meilleurs souvenirs. Et ouais, mon grand.
Il y a personne qui appelle.
Écoute, en fait. Mon grand. Ah ben on va voir. On va pouvoir juger de la trace que t'as laissée dans cette émission. Oh, je suis sûr qu'on va trouver le standard explose, me dit Pierre Amiche, tu vois. Comme quoi, tout le monde a envie de livrer ses plus mauvais souvenirs de toi à l'antenne. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour cette fin d'émission en fanfare et peut-être même un invité surprise au standard. Je ne vous dis rien, mais restez bien à l'écoute. Écoute mon grand. Je ne peux rien te dire. La réponse dans un instant avec vous les auditeurs. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes à peine.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Simon Dutin.
11h43, dimanche 30 juillet, la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport dominicales en compagnie de Marie Martineau, Ludovic Duchesne et Stephen Brun. La dernière ligne droite de Stephen Brun dans l'émission. Stephen Brun et vous à la place des grandes gueules. Et vous, du coup, je sais pas si on a un jingle spécial, mais on peut la faire sans jingle. Et vous savez quoi, les GG et vous un peu spécial, il y a Pierre Amiche qui fait sa dernière à la prod aujourd'hui. On va l'appeler, il va nous rejoindre en
oui,
studio.
Pierrot,
on va
raconter des anecdotes de l'émission.
Exactement, oui. On va se régaler ce dernier quart d'heure un petit peu spécial. On se fait plaisir, on vous fait plaisir les auditeurs sur RMC. Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre chaque week-end. Et on s'en réjouit. 11h44, ça nous fait un petit peu de temps pour cette année. Voilà, l'homme heureux en colère. Non, il est heureux forcément. Parce que
peut-être.
On précise aux auditeurs, Pierre Amiche qui va continuer à nous faire ses excellentes chroniques, l'homme heureux, l'homme en colère, mais qui va être libéré d'un petit peu de la popote, hein, vous savez, de l'émission. Délivré, mon cher Pierre.
Délivré, je sais pas, mais en tout cas, je serai plus à la tête de cette émission puisque je vais transmettre le flambeau après 7 ans. Donc j'ai fait le calcul, ça fait beaucoup d'émissions, beaucoup, quasiment 400.
T'as compté, ouais.
Ouais, bah oui, c'est
ça ne s'arrête jamais.
Ouais, c'est la seule émission qui ne s'arrête quasiment jamais et on fait pas de best-of. Il y a l'after qui fait pareil et puis nous en sport. Donc voilà, ça fait beaucoup d'émissions, beaucoup de débats, beaucoup d'idées et finalement on a fait
beaucoup
le tour.
De tête, beaucoup de
tour. Comment?
Beaucoup de prises de tête aussi.
Pas beaucoup, mais quelques-unes quand même. J'ai pas de
ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, et moi j'en profite pour remercier Pierrot et JC de la confiance qu'ils m'ont accordée, parce que comme vous le savez, je remplace le capot lorsqu'il n'est pas là, il prend un repos bien mérité, Jean-Christophe. C'est vrai qu'on assiste. Un producteur à RMC, c'est un job un peu particulier parce qu'en télé, ça s'appelle un chef d'édition. Mais les producteurs à RMC sont aussi des rédacteurs en chef. On dévoile pas un secret aux auditeurs, mais Pierrot, il vous parle beaucoup avant les émissions. Il oriente un petit peu les angles de débat. Il s'arrange pour que les débats déjà vous intéressent.
Il nous aide même quand on a un cours d'idées. Il nous appelle pour dire tiens, tu peux aller là-dessus.
Exactement. Il oriente, il vous donne des pistes de débat et voilà. Et sans les producteurs, et moi je me permets de dire à l'antenne que je considère que tu es le meilleur dans cette maison.
Merci Simon.
Mais effectivement, c'est
on embrasse les autres.
C'est un rôle fondamental.
Belle sortie.
Oh, les gars, on vous aime. Hein, je suis ravi de bosser avec vous. Mais bon, et je pense qu'ils le savent. Hein, t'as placé la barre un petit peu haut.
Je voudrais remercier quand même les quasiment 40 grandes gueules avec qui j'ai travaillé, les 25 réalisateurs que j'ai vu passer en 7 ans. C'était une aventure complètement folle. Voilà, c'était super. Après, je reste à RMC, hein, donc personne ne va pleurer, c'est cool. Hein, donc voilà, mais cette émission, c'était mon bébé, ça le restera encore un petit peu. Et je suis très heureux de passer le flambeau de cette production et de cette émission à Maxime Abolin, qui remplira le rôle de producteur à merveille.
Excellent producteur, Maxime Abolin.
Ouais, il sait pas ce que c'est de devoir être le papa de 30 personnes. Ça fait génial.
Il sait pas ce que c'est d'avoir un producteur tout prêt le vendredi à 23h. Et hop, tu es le papa de Paris Saint-Germain.
Voilà, et tu arrives au boulot à 4h parce qu'il faut tout changer. C'est la merveille. Mais bon, voilà, il le fera avec brio.
Du job, et effectivement, le job, c'est que de faire en sorte que les auditeurs ne se rendent pas toujours compte. Bon, un au revoir et non pas des adieux. Non, tu n'appuies pas sur le bouton, tu restes là, mon Pierrot,
ne bouge pas.
Tu vas pouvoir partager des petits souvenirs avec Stephen fait sa dernière, mon Stephen. Là, pareil, permets-moi de te dire que je suis honoré de t'avoir accompagné.
C'est gentil, dernière. On va pas non plus trop.
Alors, c'est
trop
pareil, tu restes dans la boutique.
Bien sûr, je quitte pas RMC. Je serai toujours dans le Super Moscato Show quasiment toute la semaine en compagnie de Denis Charvet, Pierre Dorian, Adrien Aiguin, Vincent, Eric Dimeco. Voilà. Et puis il y aura une petite nouveauté sûrement le samedi en fin de soirée où accompagné d'un journaliste, je lancerai une émission Omnisport sportive.
C'est pas vrai.
Avec un peu de basket, voilà. Avec normalement, ce sera avec Benoît Boutron. C'est pas normalement, c'est sûr. Ce sera avec Benoît Boutron. Donc, ce sera notre binôme, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le samedi soir maintenant sur la grille de la rentrée.
Et bon. Ça s'appelle. Il y a un nom.
Et on peut pas dire encore.
Ah,
secret.
C'est encore secret.
Ouais, c'est
secret.
Ah, ça s'appelle là. Petit ours brun. Ouais. On peut pas encore le dire.
Le gros nounours brun.
On peut pas encore l'officialiser.
Bon, et puis les jours où la boute est en vacances, tu sais que moi je suis intérimaire ici. Tu cherches un présentateur, un copain. Tu n'hésites pas à en parler à Kevin
bon,
et Emmanuel.
Basket, c'est du basket.
Hein. À Karim et Emmanuel. Ah bah, il y a du basket. Écoute, je touche un petit peu ma bille. On va accueillir les auditeurs qui veulent partager leurs souvenirs de l'émission et notamment de Stephen. On accueille Kevin qui a fait le 32-16. Salut Kevin.
Kevin, le prénom déjà.
Salut grande gueule. Salut Stephen.
Salut Kevin.
Salut Kevin. Bon, ben libre antenne à toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à notre grande gueule qui s'en va
Emmanuel, je vous entends assez mal, mais j'y vais. Si vous m'entendez bien, vous êtes bon.
On t'entend très bien.
Vas-y, Kevin.
Alors, on y va. Bon, alors, mon Stephen, c'est donc ta dernière aujourd'hui dans les grandes gueules du sport.
Oui.
Et je me devais de te rendre hommage. Pour cette dernière, tu aurais mérité qu'on se retrouve à une centaine dans un virage des couloirs de RMC. On aurait picolé pendant tout le week-end et on aurait crié ton nom pour ta dernière envolée en brandissant des drapeaux et des pancartes. Comment tu dois le faire pour les dimanches champions.
C'est un fan de Thibaut Pinot qui m'appelle.
Ta présence manquera à cette émission. Dans les studios des grandes gueules comme sur les parquets, tu auras brillé par ta polyvalence. Tel un vrai poste 4 des micros, tu as été capable d'enfoncer tes adversaires sur la Formule 1 comme d'envoyer des grosses filoches sur le foot et le rugby. Dans les studios comme sur les parquets, tu as toujours préféré l'attaque à la défense, mais toujours avec justesse. Bon, le pire dans tout ça, c'est que tu laisses le brassard de capitaine des calembours à JC Drouet, et ça, on n'est pas sûr que l'émission puisse s'en remettre.
Merci Kevin, c'est gentil. C'est très gentil.
Kevin qui avait écrit son petit hommage.
Il avait compris que quand j'étais basketteur, je défendais pas beaucoup. C'était pas ma qualité première. Non,
j'ai même eu l'honneur de te voir jouer, j'étais gamin moi, mais quand t'as joué
à l'arbre... L'honneur, doucement. Hein, bon. Non, c'est gentil, c'est gentil Kevin. Alors moi je quitte l'émission, j'ai fait pas mal d'années, j'ai débuté à l'époque, c'était Sarah et Christophe Cessieux qui étaient à la présentation, après JC a pris le relais. Moi j'ai coutume de dire qu'il y a jamais d'indispensable dans les émissions, les cimetières sont remplis de gens indispensables, hein. L'affaire s'est jamais arrêté de tourner, les émissions et cette émission là les grandes gueules du sport a très bien fonctionné avant moi, elle continuera de fonctionner après moi, ça a été un grand moment de plaisir même si parfois mois de janvier février quand il fait moins 4 et que tu sors chez toi et qu'il fait nuit pour venir. Il y a eu des moments compliqués, mais il faut voir la tronche de Stephen pendant à 9h. Ça va. Je me suis régalé. Alors parfois, il y a eu des moments où je me suis pris la tête, notamment avec Christophe Cessieux. Voilà, parce que quand vous vivez le samedi matin,
c'est ça les familles.
3h, et ben parfois il y a des prises de tête. Mais c'était beaucoup de plaisir et ça m'a permis aussi de m'éclairer sur d'autres sports dont j'étais pas spécialiste. Et c'était un grand plaisir de partager tout ça avec tous les consultants qui se sont succédés, les présentateurs, Simon, JC, parce que JC est souvent en vacances, hein, donc il y a souvent des pistes. Je me suis régalé. Voilà, mais je vous souhaite tous une belle continuation, une bonne suite. Hein, et je vous suivrai avec attention.
Et on remercie Kevin d'avoir fait le 32-16, d'être venu partager ce beau petit, ce bel beau petit hommage. Allez, on va y arriver du temps. Pierrot, avant d'accueillir un autre auditeur au 32-16.
Oui, non, juste anecdote assez marrante avec Stephen. C'est quand même un de mes meilleurs souvenirs. C'est quand Christophe Cessieux de rage a quitté le plateau. J'avais jamais vu ça quand même. Hein. C'est-à-dire, il est parti, il est venu en régie.
Après, bah, il y a Stephen en
débat. Bien sûr. Il me fait chier, machin. Le ton était monté même à la pub, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et puis ça s'était fini quand même avec
un câlin
un quart d'heure après, parce que les deux étaient montés dans les tours pour rien. C'est ça aussi la magie de cette émission, oui. C'est qu'on joue pas tout le temps des rôles.
Non.
Des fois c'est des rôles.
Et
voilà, des fois c'est un jeu de marionnettes. Hein. On remplit des rôles et on devient caricatural pour la force des choses. Et puis des fois pas du tout. Hein. Des fois c'est très honnête.
Après souvent j'avais des petits défis quand je voyais Christophe Cessieux était pas bien luné. J'allais sur les terrains, qui allait l'agacer. C'était notre petit jeu parfois de faire péter des câbles. À Christophe Cessieux, voilà, c'était des petits jeux.
Bon, eh ben évidemment, l'amour finit toujours par l'emporter, surtout dans le studio des grandes gueules de RMC. On accueille Mary qui a fait le 32-16. Salut Mary.
Bonjour à tous.
Salut Mary.
Salut.
Ça va les gars?
Ça va très bien. Un petit message Marie, pour Stephen.
Ça va, nickel. Ben alors moi je vais pas faire aussi bien et aussi long que l'auditeur précédent. Et je sais que Stephen est assez féru de tennis et qu'il y a le fameux débat sur le GOAT. Et donc, pour moi, je pense qu'on peut dire que c'est lui le GOAT des jeux de mots sur RMC.
Ah, les jeux de mots.
Parce que là, honnêtement, sur toute la saison, que ce soit l'after, Moscato, le week-end, imbattable sur ça. J'ai adoré vraiment depuis deux ans. Il devient de plus en plus performant.
Après,
on a compris qu'il en avait marre de se lever le samedi matin. Du coup, ils lui ont donné la case du soir. Il sera un petit à l'aise. Puisqu'il a été bien formé avec Monsieur Moscato pour les soirées.
Oh, il paraît,
Je suis un mec de la Nike, moi, Mary. Je ne suis pas un mec du matin.
Et juste aussi, petit point pour... petit hommage, on va dire, aussi à Pierre Amiche pour ses chroniques et la production. C'est vraiment super ce qu'il fait.
Merci beaucoup, Mary. Mais ça continuera l'année prochaine. Hein. Ça, c'est...
Les chroniques, elles restent l'année prochaine, évidemment.
Faut pas que tu nous fasses du Thibaut Pinot, faut pas que tu t'arrêtes, toi.
J'espère que quand je m'arrêterai, il y aura un virage rempli d'alcool avec des centaines de personnes avec des tifos, mais j'y crois pas beaucoup.
Avec
pas
des mairies partout pour hurler leur amour à Pierre Amiche. Merci beaucoup, en tout cas, Mary, d'avoir fait le 32-16.
Un petit mot pour toi, Simon. Je m'étonne très bien. Parce que quand t'es chroniqueur, t'es un peu turbulent et tout ça, et là tu ne tiens pas d'une main de maître.
J'ai cru qu'il allait dire quand t'es chroniqueur, j'aime pas trop. Mais là ça va.
Non, je déteste vraiment carrément.
En chroniqueur, il est bon. Juste des fois, c'est vrai que l'année dernière, par rapport à Messi, je sais que tu le respectais beaucoup. Il y a quelques fois, j'aurais aimé que tu sois un peu plus
mesuré.
Ouais, mais quand t'es amoureux, t'es pas dans la mesure.
C'est un peu schizophrénique, ce double emploi. Quand t'es chroniqueur, c'est vrai que tu te laisses, Pierrot et Stephen le disaient, emporté par le débat et l'émotion de temps en temps. Là, je suis tenu un devoir de réserve, évidemment. Mais en tout cas, le petit hommage me fait plaisir. Merci beaucoup, Mary. À très vite dans les grandes gueules du sport. Il nous reste quelques minutes pour accueillir Stephen qui a envie de parler à Stephen. Salut Stephen, bienvenue dans les grandes gueules.
Ouais, salut les GG, ça va?
Salut Steven, allez.
Alors, un petit mot pour ton quasi homonyme, Steven?
Ouais, en plus, j'ai vu que pas mal de gens se trompaient à chaque fois. Il appelait Steven et tout ça, ça me faisait bien marrer. Moi, je suis un peu, j'ai un peu touché les espoirs et les compliments. Moi, je l'aimais pas trop au début. je l'aimais pas trop. J'avais des doutes. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé qu'il était, vraiment bien. Il était vraiment bon, même si j'étais pas toujours d'accord avec lui. Et puis à la fin, je sais pas, je trouve que
t'en as eu un peu marre.
Laisser Christophe, JC comme ça, alors qu'il a commencé un peu avec eux, les laisser tout ça, je trouve que c'est pas cool. Alors je me dis au final, je sais pas, bon débarras.
Ouais, alors Steven, je vais t'appeler Jean-Claude. Permets-moi
Jean-Claude. Il est démasqué.
En parlant de mecs qui nous délaissent très souvent quand même.
Attendez, là je remplis mon meilleur rôle, Steven. Je suis en vacances.
Oui. C'est là que t'es le meilleur. Vous l'avez reconnu, évidemment, Jean-Christophe Drouet, le patron, le capot qui prend un petit peu de repos. C'est sympa de passer le voir.
Il est trop numéro 9, par contre.
Il est au clubhouse, là, il a fait une pause. Tu sais, bon, il peut prendre son temps.
Exactement. Bon, ça va, les copains. Je suis très heureux d'être avec vous. Et puis, ça me tenait à cœur, évidemment, de faire un petit coucou, même si on va se revoir très rapidement et qu'on se revoit de toute façon dans les locaux. Mais voilà, ça me touche toujours. Voilà, Stephen a été une... J'ai commencé avec
mes trois personnellement dans les grandes
gueules. Exactement. Et donc, voilà, je suis très heureux qu'il puisse continuer à grandir et un petit peu triste, évidemment, parce que c'était un des personnages de cette émission et je sais aussi un des personnages qu'aimaient les auditeurs. Donc voilà, c'est pas un au revoir. Moi, je suis très content pour lui, je suis très content de ce qu'il fait. Et voilà, mais c'est toujours un peu émouvant de se dire qu'un camarade, qu'un ami, voilà, fasse autre chose. Mais je suis très très content pour lui et
mon
voilà.
Mon cher, j'y sais, je pars.
mais ça m'empêchera pas quand même de lui envoyer les débats souvent.
Oui, c'est vrai. Par contre, cette fois-ci, je pourrais quitter le groupe avant que l'émission commence. Même si j'ai déjà fait, ça m'est arrivé de m'énerver et de quitter le groupe WhatsApp. Ça fait partie des anecdotes. Ça aussi.
Les pas bonnes anecdotes quand même, c'est que quand il a quitté le groupe WhatsApp, on devait être en novembre et que tout le reste de l'année, il n'a pas réintégré le groupe.
Il faut dire aux auditeurs, il y a un groupe WhatsApp des GG sur toute l'année et puis il y a un groupe WhatsApp pour chaque émission chaque semaine. Mais lui, il avait quitté le groupe de toute l'année. Hein.
Ouais. D'ailleurs, il a fait autre chose, Stephen, si j'ai le temps rapidement. Enfin, Steven, je préfère l'appeler Steven, je trouve que ça lui va mieux. Mais il a fait autre chose. C'est-à-dire qu'un jour, il avait quitté d'énervement parce qu'on était en train de débattre déjà des débats. J'ai envoyé donc au petit groupe, il y avait 4 GG dans ce groupe WhatsApp. Il a quitté le groupe genre le jeudi pour l'émission le samedi matin. Et puis moi, j'ai continué d'alimenter et d'envoyer les débats. Et puis ils ont changé tout ça. Et puis j'avais oublié qu'il avait quitté le groupe. Et le samedi matin, il n'y avait pas les questions. Je dis, bah oui, mais t'as quitté le groupe. Il dit, bah oui, mais j'ai pas les débats. Je dis, bah maintenant tu te débrouilles. Voilà.
Ça, c'est aussi au talent.
C'est-à-dire que on l'aime beaucoup parce qu'on a énormément de tendresse pour lui. Il peut parfois péter des câbles et c'est ce qui nous a beaucoup fait rire cette saison et ces saisons aussi. C'est parce que parfois, bah voilà, il fallait le gérer comme un enfant et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup et parce que voilà, il peut être difficile parfois en affaire, mais c'est tellement un amour de mec que voilà.
Je suis attention.
Je déteste ce mot. Ça,
Comme une belle journée, tu le dis.
Merci, mon JC. Repose-toi bien. Parce que t'as une belle
journée. Bisous, les amis.
T'as beaucoup de boulot qui t'arrive. Merci beaucoup, JC. En un mot, on dévoile pas le suspense, mais on peut rassurer les auditeurs. Il y aura des nouvelles grandes gueules à la rentrée. On renouvelle évidemment le cheptel régulièrement.
Vous voulez.
Vas-y, fais péter. Allez, une petite annonce. Vas-y. Si on a le droit.
Roger Federer.
Il y a Olivier Panis qui va venir nous rejoindre.
Ouais.
Voilà.
C'est qui?
L'ancien tennisman.
Notamment, il y aura d'autres surprises.
C'est ça. Et d'autres assurent évidemment la réponse à la rentrée. Merci beaucoup, JC, d'être passé.
Ciao.
Et bonnes vacances, bonne fin de repos, Stephen. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne continuation.
À très vite.
Et puis voilà, on se croisera dans les couloirs.
Il y aura un canon au 3-13. Et voilà.
Ah, c'est, hein.
Voilà, le rendez-vous. Vous. Pierrot, merci, je le répète encore une fois pour la confiance en tant que prod et on te retrouve évidemment avec appétit pour les chroniques. Toi aussi, tu vas aller te reposer un petit peu quand même,
un petit mois à l'herbage, voilà, c'est important.
Allez, c'est bien, on va prendre l'air. Ludovic, nous, on va continuer ensemble au moins une semaine de jours.
Ouais, ça va être sympa.
Voilà, Ludovic qui prend de l'épaisseur, hein, ça gueule de plus en plus, hein, en studio.
On est ravis.
Marie Sabatino, merci. À très rapidement, évidemment, dans l'émission 11h59. Maxime Avolan est pas content, je suis en retard. Dans un instant, les paris, midi 13h. Pour essayer de gagner un peu d'argent ou d'en perdre le moins possible. Les grandes gueules du sport reviennent la semaine prochaine. Samedi, dimanche, j'aurai encore le plaisir de vous accompagner.